Évidemment, je parle de l'intercompréhension deuxième perspective, c'est-à-dire celle qui se fait comme pratique de l'intercompréhension en contact avec des natifs des autres langues. C'est une pratique vivante, on ne peut pas dire le contraire, c'est vivant. C'est vivant parce que c'est inattendu, on ne sait pas bien ce qui va se produire, etc. Donc, ça a des défauts, parce que ce qui est vivant a des défauts. Dans la vie, on a plein de déceptions, vous êtes d'accord. Il y a même parfois des grosses déceptions. Et donc, ce n'est pas tout prévu comme dans un cours académique. Ça heurte un peu la démarche académique. On la rejoint un jour ou l'autre, la démarche académique, figurez-vous. Il y a des gens qui sont très académiques, qui participent à ces choses, qui les étudient académiquement. Mais le fait de ne pas savoir quel sera le contenu, de ne pas savoir ce qui va se passer, comment ça va être, de donner beaucoup d'initiatives, de responsabilités aux gens conformes, ça expose à des dangers relatifs, qu'on peut appeler des risques simplement. Et on a donc ces imprévus qui peuvent être négatifs. On a une impression de fouillis, de pagaille. Quand vous allez entrer sur Galanet, vous allez voir comment c'est la pagaille. On a une impression aussi d'approximatif. C'est de l'à peu près. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, on va comprendre un message. Dès qu'on va être capable de répondre quelque chose, mais on peut ne pas avoir bien compris, répondre faux. Donc c'est dans l'interaction ensuite qu'on essaiera d'affiner. Mais pendant qu'on fait ça, on a l'impression qu'on est en train d'organiser la pagaille. On peut se tromper. On peut se tromper. On se trompe beaucoup. On peut aussi tomber sur un francophone, et d'ailleurs c'est très courant, qui écrit des choses pour que les autres apprennent sa langue, bourré de fautes. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Il est là, il est censé aider les autres à apprendre à lire sa langue, et il leur écrit des fautes. Donc il y a des problèmes pédagogiques qui se posent, et tout le monde en fait un jour, à un moment ou à un autre, des fautes. Donc il y a des problèmes pédagogiques qui se posent avec les fautes. On dédramatise la faute, puisque la faute en compréhension... Si on comprend, c'est pas grave. Et regardez un peu autour de vous. Trouvez-moi quelqu'un. Vous en recevez des mails aussi. Bon, vous avez vu comment qu'il y en a des fautes. Des profs qui se scandalisent parce que les étudiants leur écrivent et qu'il y a des fautes. Mais bon, ils demandent quelque chose. Savoir ce qu'ils demandent d'abord. La faute, c'est secondaire. Ou ils donnent une information. Si on comprend, il faut dédramatiser la faute. Parce que d'abord, on ne pourra rien faire. Si tout le monde écrive juste, impeccable, on va devoir vérifier tout avant que ça parte. Mais c'est quoi ça? C'est la dictature. Donc, on doit apprendre la responsabilisation en offrant sa langue permet de réduire les fautes des gens qui en ont beaucoup au départ. On a eu des cas, on en a souvent, des étudiants qui font vraiment beaucoup de fautes. Et donc là, on se pose un problème pédagogique, comment on va faire? Est-ce que tu veux que je te relise, etc. On a des... Il faut faire face pédagogiquement à des situations, mais ce n'est pas dramatique. On privilégie l'expression, du moment que l'autre va comprendre. C'est l'histoire de la mauvaise habitude, ce n'est pas parce que quelqu'un aura... Au contraire, il y a une compétence qui est engendrée, et cette compétence, vous l'avez tous. Si quelqu'un vous envoie une lettre d'amour bourrée de fautes d'orthographe, vous comprenez que c'est une lettre d'amour. Et vous comprenez même des choses, des détails et tout ça. Ça ne vous dérange pas trop. Que les fautes. Donc on développe cette compétence qui est de comprendre quand même malgré les fautes. Quelle n'a pas été ma joie lorsque moi, ayant appris à lire l'italien avec la plateforme Galanet, j'ai remarqué la première fois, ah, il a oublié une lettre et je comprends quand même. C'est quand même fort dans une langue qui n'est pas la vôtre, vous comprenez quand même malgré les fautes. C'est une compétence. Et de toute façon, dans la vie, il faut l'avoir cette compétence parce que vous êtes bien d'accord que on rencontre toutes sortes de choses et c'est pas toujours parfait dans la forme et on interprète quand même. Donc c'est à peu près, c'est à peu près de la vie, c'est le défaut de ce qui est vivant. Donc d'autres défauts qui peuvent s'installer dans les débats, quand on demande aux gens de débattre, c'est des radicalisations ou bien des défauts que les gens sortent des règles qui sont des règles françaises, par exemple du prosélytisme. Les gens vont commencer à vouloir attirer les gens à leur religion, à leur parti politique. Alors ça, les étrangers ne comprennent pas bien ça, par exemple. C'est fait partie des données interculturelles. Ça passe mieux chez les Français parce qu'on est habitué à ne pas parler de religion, à ne pas parler de politique dans les classes. Mais c'est pas ne pas en parler en fait. On peut en parler. C'est de dire aux gens d'attirer les gens dans sa chapelle et dans son parti qui est interdit. Ça, c'est interdit, c'est le prosélytisme. Donc, si moi je vous faisais de la pub pour un parti politique maintenant ou pour une religion, vous seriez scandalisé. Ben, il y a des pays où on ne l'est pas. C'est encore une donnée interculturelle. Donc, il y a ce danger, si vous voulez, que ça peut dériver et on s'engueule. C'est arrivé très rarement parce que le public d'étudiants est un public déjà très poli, très docile et tout. Mais avec des jeunes, des plus jeunes, lycée, collège, il y a d'autres problèmes. C'est les grossièretés. Ils ont l'habitude de l'Internet. Et donc pour eux, du moment que c'est sur Internet, ils ne l'avaient jamais fait à l'école. Si on leur propose de le faire, ils ne sont pas à l'école. Donc ils se lâchent. Et plus, comme on les oblige plus ou moins par rapport aux étudiants qui choisissent, alors là, ils se vengent un peu de l'obligation et ils écrivent ils font des interventions avec des grossièretés, des trucs comme ça. Ça peut arriver. Donc ça ne demande pas le même encadrement pour les plus jeunes que pour les étudiants. C'est pas non plus une grosse catastrophe, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait des activités avec des plus jeunes, il y a deux ou trois cas qui se posent, alors que ça se pose jamais avec les étudiants. Donc il peut y avoir donc des dérives, des dérapages, des choses comme ça. Et quel enseignant est prêt à prendre ce risque en plus du boulot que ça donne, parce qu'on croit que c'est clair. Donc on n'est pas sorti de l'auberge pour l'introduction des activités, la généralisation de ces activités, tout aussi éducatives soient-elles. Bon, alors ensuite, quand ce truc marchera, et quand vous serez devant votre machine, vous verrez qu'il y a une liste de liens sous le nom de Cytographie et une liste d'ouvrages que vous ne pourrez pas vous procurer, puisqu'on n'est pas dans la bibliothèque, que je cite, puisque c'est à partir d'eux que j'ai réussi toute cette affaire. Maintenant, si vous voulez, il reste une minute ou deux, ou peut-être rien. Et si vous avez une question ou deux, on peut la poser. Oui. Où je place l'espéranto? Alors l'espéranto, on peut très bien... C'est déjà arrivé sur Galanet que quelqu'un écrive en espéranto. On se rend compte qu'on comprend dans le contexte, de la même manière qu'une langue romane, tandis qu'il prend beaucoup aux langues romanes. Pas tout, hein, pas la grammaire, puisque la grammaire, c'est un peu une grammaire de style créole. Mais ça fonctionne dedans. Maintenant, je le place politiquement, d'un point de vue de politique linguistique, comme une autre alternative au problème de politique linguistique européen ou mondial, c'est-à-dire c'est un moyen alternatif pour que des gens qui ne parlent pas la même langue se comprennent. Voilà deux réponses sur l'espéranto. Une réponse technique dans l'intercompréhension et une réponse politique sur la communication de l'homme au niveau de la planète. Il y en a d'autres questions ? Bon, si vous voulez venir me voir, je ne vais pas partir.
La question, c'est que si comme ça, on est moins motivé à apprendre un lamois franquin, donc, c'est-à-dire une langue commune avec laquelle on peut parler tous ensemble. On est moins motivé.
Si on fait de l'intercompréhension, on est moins motivé pour apprendre une langue universelle.
Voilà.
Oui. Alors, je ne sais pas. Je crois que ça ne démotive pas, au contraire, ça met à l'aise. Et ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous avez appris à comprendre toutes les langues romanes que vous êtes délivré du fait d'apprendre l'anglais. Et peut-être que cette décontraction va vous permettre d'apprendre mieux l'anglais et d'avoir moins de complexes avec des anglophones. Peut-être. En tout cas, l'anglais, langue universelle, c'est aussi une des choses qui s'atténue. On n'est plus bien sûr que l'anglais soit la langue universelle. On sait qu'elle rend de grands services au niveau de la communication internationale, mais on n'a plus peur qu'elle devienne une langue universelle par le fait. Ça fait partie de ce nouveau paradigme. Hein.